dans 15 pays d'Afrique, Suno Assurance vous souhaite une belle année 2018 pleine d'assurance et vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Igor Strauss.
Bonjour à tous et bienvenue dans Priorité Santé. Ils sont partout, dans nos cheveux, nos vêtements, dans nos lits, nos tapis, sur nos animaux de compagnie. Et ceux qui s'invitent chez nous, malgré nous, du coup, ils se transmettent facilement et il est compliqué d'y échapper. Ils, ce sont les parasites. Certains, comme les poux, sont plus irritants dans tous les sens du terme que dangereux pour la santé. Mais on aimerait s'en débarrasser une bonne fois pour toutes, parole de père de famille. D'autres provoquent des maladies comme la gale, par exemple, qui sévit sur tous les continents et qui est extrêmement contagieuse. Alors comment éviter tous ces parasites indésirables qui cherchent généralement notre présence pour se nourrir de notre sang? Comment s'en débarrasser et quels sont les traitements existants? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec notre invité, le docteur Areski Izri, chef de service parasitologie mycologie à l'hôpital Avicenne à Bobigny, en banlieue parisienne. Et évidemment, comme tous les jours, nous attendons vos questions, vos réactions au 33 1 84 20 22 75 75. Ouais. RFI. Docteur Areski Izri, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Alors, les parasites sont extrêmement nombreux, on les trouve partout, sur tous les continents, mais en France, quels sont les plus répandus et les plus dangereux pour la santé, j'ai envie de dire?
Alors, il faut distinguer peut-être les parasites de la peau et des fanères, les cheveux, les ongles, des parasites qui peuvent entrer dans l'organisme. Sur la peau, vous l'avez dit, il y a les poux, il y a le sarcopte, la gale, et puis après on peut trouver des punaises, des tiques, des moustiques, etc. C'est pas très méchant tout ça, sauf peut-être pour les tiques qui peuvent transmettre des maladies graves. Et dans l'organisme, on peut trouver des parasites qui sont assez dangereux, comme le toxoplasme. C'est un petit protozoaire, un petit parasite qu'on attrape en mangeant de la viande crue ou mal cuite, ou bien parfois des végétaux non lavés. La toxoplasmose peut être une maladie dangereuse.
Ça, c'est, il se loge dans le cerveau, c'est ça, non?
Alors, la toxoplasmose, quand on est contaminé, ça fait d'abord une maladie un petit peu généralisée, on fait de la fièvre, on est fatigué, et puis ensuite, effectivement, très rapidement, les défenses de l'organisme vont essayer de neutraliser tout ça, et le toxoplasme va s'enquister un petit peu, soit dans le cerveau, soit dans l'œil, soit dans des tissus où les défenses ne l'atteignent pas tout de suite. Mais dans la très grande majorité des cas, ça ne donne pas du tout de maladie, c'est bénin. Et par contre, chez la femme enceinte, ou bien chez le sujet immunodéprimé, là, ça peut être très grave. Chez la femme enceinte, ça passe vers le fœtus, ça peut tuer le fœtus, ça peut donner des conséquences dramatiques. Et puis chez l'immunodéprimé, le sujet immunodéprimé, ça peut donner notamment des abcès du cerveau qui peuvent aller jusqu'à la mort.
Alors comment se protéger finalement contre ce toxoplasme?
C'est d'abord pour la femme enceinte, il y a une réglementation en France, c'est qu'elle fait la sérologie tous les mois lorsqu'elle est enceinte. Si elle est positive dès le départ, donc c'est une toxoplasmose ancienne, il n'y a pratiquement aucune protection parce qu'elle est déjà elle-même immunisée, elle est protégée. Sinon, elle doit prendre des précautions, ne pas manger de viande crue, ne pas éviter les crudités un petit peu douteuses.
Alors, on va détailler l'ensemble des parasites. On va parler d'abord des poux, hein, puisque chaque année, plus de 100 millions de personnes sont infestées par les poux. Comment s'attrape-t-il? Alors là, je ne parle pas d'une personne à personne, mais au tout départ, comment est-ce qu'on attrape des poux?
Alors, les poux sont sur nous depuis la nuit des temps. On a réussi un peu à s'en débarrasser, mais ils reviennent. Alors, vous avez trois sortes de poux qui parasitent l'homme. Le poux de tête, c'est le plus fréquent, c'est celui dont vous parliez, plus de 100 millions de personnes. Alors ça, c'est un poux qui passe d'un sujet à l'autre par contact direct, cheveux contre cheveux. C'est un poux qui a, donc, comme tous les insectes, trois paires de pattes, mais des pattes qui ont des pinces. Chaque patte suffit au poux à s'accrocher à un cheveu. Donc il suffit d'un contact fugace avec le poux, et hop, on a attrapé les poux.
Donc ils sautent de tête en tête. C'est pour ça que ça crée des ravages dans nos écoles, qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser sur les têtes blondes de nos enfants.
Exactement, mais ils ne sautent pas, ils ne volent pas. C'est le contact, c'est notre cheveu qui va aller à son contact. Et là, on l'a attrapé. hein, tout de suite. C'est vraiment instantané. Et puis ensuite, il se reproduit sur la tête et ça va très vite.
Alors justement, on dit qu'il y a des têtes à poux ou des cheveux à poux. Est-ce que c'est une réalité ?
Alors oui, ça, c'est vieux comme le monde. On dit toujours qu'il y a une tête à poux dans une famille. C'est vrai que dans une famille, il peut y avoir une personne qui a toujours des poux et les autres n'en ont pratiquement jamais. En réalité, on ne sait pas trop pourquoi. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le sang ? Est-ce qu'il y a des phéromones ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire plus ? Mais c'est peut-être plus le comportement de l'individu. Une fille qui a les cheveux longs, qui est très câline, qui joue facilement tête contre tête avec les autres, attrape plus facilement les poux qu'un garçon qui a les cheveux courts, qui n'est pas très câlin, qui n'aime pas trop le contact.
Est-ce que c'est un signe de manque de propreté ?
Pas forcément. Tout le monde peut avoir des poux, propres, sales, riches, pauvres, toutes les races. Tout le monde peut avoir des poux. Mais c'est vrai que quand... on a des poux et quand on s'en aperçoit, théoriquement, on peut s'en débarrasser. Et donc, ceux qui en ont beaucoup, c'est qu'ils n'ont pas fait l'effort nécessaire pour s'en débarrasser.
Alors justement, comment s'en débarrasser ? Quel est le cycle de vie d'un poux ? Est-ce qu'il faut, pour s'en débarrasser, il faut qu'il y ait un traitement de masse ? Là, je pense aux écoles, justement.
Alors, d'abord, le cycle de vie, c'est très rapide. Hein. Une femelle, poux... peut pondre jusqu'à 10 œufs par jour pendant un mois. 200 à 300 œufs sur les cheveux. Les œufs sont appelés des lentes. Elles sont collées à la racine du cheveu. L'œuf est clos au bout d'une semaine et devient adulte en 2 semaines à peu près. Donc vous voyez, ça va très très vite. Hein, ça va très vite. On les voit pas tout de suite. Hein. On les voit quand l'enfant commence à se gratter. On regarde, on peut voir des lentes blanchâtres. Mais en fait, quand elles sont blanchâtres, elles sont vides et elles sont déjà loin de la racine du cheveu. Le traitement, quand on voit qu'on a des poux, alors jusque-là, on a utilisé les insecticides, hein, ce sont des insectes, donc on met des insecticides. Malheureusement, depuis maintenant plus de 20 ans, les poux sont devenus résistants aux insecticides.
Mais ça, c'est là qu'est le problème, et de plus en plus de produits dans les grandes surfaces, justement, ne fonctionnent plus, finalement.
Alors, normalement, les insecticides sont vendus en pharmacie, pas dans les grandes surfaces, et théoriquement, ils ont une indication médicale, traitement des poux. Mais ça ne marche plus. Il faut être très clair.
Donc il faut alterner si un produit ne marche pas, ne pas hésiter à en prendre un autre, c'est ça ? Pour donner des conseils à nos auditeurs ?
Pour donner des conseils à nos auditeurs, je pense qu'il faut dire clairement que les insecticides, il ne faut plus les utiliser. Par contre, nous avons des huiles maintenant qui sont efficaces, comme la diméticone et d'autres huiles.
Mais
qui
des
sont
huiles efficaces pour traiter ou
pour
prévenir ?
Pour traiter.
Pour traiter également ?
Pour traiter, essentiellement pour traiter. Il n'y a pas vraiment de prévention avec un produit. Ça n'existe pas.
L'huile de lavande qu'on met dans les cheveux par prévention, ça marchait pas, ça c'est
non. Moi je suis contre ça parce que l'huile essentielle d'avande est un produit toxique qu'il vaut mieux éviter d'utiliser. Et puis de toute façon, la prévention, c'est pas un produit comme ça qui va éviter qu'on attrape les poux. Nous avons fait des essais avec différents produits préventifs, ça ne marche pas. La prévention, c'est éviter le contact ou attacher les cheveux. C'est ça la prévention. C'est pas autre chose.
Alors, notre reporter, Raphaël Constant, a rencontré Laura, une Parisienne de 27 ans, qui a attrapé des puces de lit lors d'un voyage à Bali. Elle raconte comment elle a réussi à s'en débarrasser et quelles séquelles elle en garde.
Ma première rencontre avec ces petits insectes a été en Indonésie. Là, on allait un peu de petits hôtels, dortoirs, avec plein de gens qui tournent tous les jours. Et du coup, on s'est réveillé un matin, ça nous grattait à peu près partout, mais comme il y avait des piqûres de moustiques en même temps, moi je connaissais pas, donc on n'était pas très sûr de ce que c'était. Jusqu'à ce que, quand même, le deuxième jour, on bouge pas trop, on reste dans les mêmes chambres. Et là, quand j'ai vu 120 boutons sur ma jambe gauche et mon bras droit, j'ai compris que c'était pas un moustique énervé qui s'était attaqué à nous, mais que ça devait être quelque chose d'autre. Et c'est l'ami avec qui j'étais qui m'a parlé des puces de lit. Et donc moi, consciencieuse, j'ai fait mon travail de recherche sur Internet et ça m'a beaucoup affolée sur le coup. Parce que les photos qu'on peut voir sont assez impressionnantes. On comprend un peu la signature de ces insectes parce qu'il y a 3 boutons qui sont à la suite. Donc c'est vraiment typique, ça fait une ligne, 1, 2, 3, et c'est un schéma qui se reproduit. Enfin, on arrive à l'identifier à partir du moment où on le voit 1 ou 2 fois, c'est immanquable. Et aussi la grande quantité. Et du coup, les 2 dernières semaines, ma mission a été d'essayer de tout faire pour pas les ramener. Une fois que je suis rentrée à Paris, déjà j'ai pas posé une seule fois ma valise chez moi. Je suis rentrée, il était 6h du matin, j'ai pris ma valise, j'ai attendu devant la laverie, j'ai tout passé à la laverie 3 fois. tout à 60, à plus de 60 même, si possible. Et alors là, a commencé l'autre phase des puces de lit. J'ai fait une réaction allergique. Tous mes boutons ont recommencé à gonfler et à me gratter, mais horriblement. Donc là, j'ai été obligée d'aller voir un médecin qui m'a donné un traitement anti-allergique, un comprimé à prendre et de la crème à mettre sur les 120 boutons un par un. On s'amusait beaucoup. Et au bout d'un moment, c'est parti. Mais enfin, moi, j'ai toujours des cicatrices sur le corps de m'être gratté quand je savais pas contrôler le truc. Donc ça a été quand même en deux phases. Et puis, on va dire que l'autre phase, c'était de plus dormir. Mais pendant des jours, tu dors plus. Tu te réveilles la nuit, t'as l'impression d'en avoir. Franchement, j'ai mis deux mois à me dire « Ok, c'est bon, c'est sûr que j'en ai plus à 100%, c'est pas possible. » Mais au final, tout est bien qui finit bien et personne n'en avait ramené de chez nous. Moi, j'avoue que les dortoirs à 10 où les gens changent tous les jours en voyage, c'est quelque chose que je vais plus trop faire. Le mur qu'il faut mettre, c'est que ça rentre pas dans la maison. Et pour ça, du coup, moi, je tirerai une croix sur l'eau et ma chambre ou des choses comme ça.
Des propos recueillis par Raphaël Constant.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Areskizri, une réaction?
Oui.
Ces punaises de lit qui nous envahissent.
Oui, voilà, c'est des punaises, c'est pas des puces, c'est des punaises de lit. En tout cas, bravo à cette description qui est tout à fait caractéristique. Cette jeune femme qui a voyagé, qui a dormi dans un hôtel, qui a été piquée et qui a eu des piqûres alignées, au moins trois sur la même ligne. C'est tout à fait caractéristique des punaises de lit. Et puis, elle a très très bien réagi en arrivant. Avant de ramener le linge, les vêtements, la valise chez elle, elle a été les nettoyer à 60 degrés. Ça suffit, c'est pas la peine de faire plus. 60 degrés, ça tue absolument tous les insectes. Et puis, le sèche-linge également, qui est extrêmement efficace, à condition de faire un sèche-linge pendant une heure. Là, c'est la destruction totale de tout insecte.
Alors, les punaises de lit ont un appétit d'ogre. Elles se nourrissent du sang humain, évidemment. Et c'est pour ça qu'elles sont si néfastes pour nous, finalement, c'est ça?
Ah oui, alors...
Elles cherchent notre présence, finalement.
Ah oui, elles se sont adaptées à l'homme lorsqu'il était encore dans ce qui vivait dans les grottes. Et puis, depuis, elles ne nous lâchent plus. Elles ne prennent aujourd'hui pratiquement que du sang humain. La punaise de lit la plus fréquente, Cimex lectularius, est maintenant largement retrouvée partout dans le monde. Elle est cosmopolite, elle a envahi nos maisons, nos immeubles, les hôtels, les moyens de transport, les avions, les bateaux, etc. On l'attrape partout.
Et les réactions allergiques, est-ce qu'elles sont fréquentes?
Alors la piqûre est due à, la réaction est due à la piqûre, donc il y a une injection de salive qui contient des protéines et c'est ça qui provoque l'allergie. C'est assez fréquent. Il y a quelques personnes qui n'y réagissent pas du tout, mais la plupart des gens développent des boutons entre guillemets, des boutons qui peuvent être qui peuvent aller du plus petite vésicule jusqu'à parfois des réactions allergiques très sévères, pouvant aller jusqu'à l'édème de Quincke, quelque chose d'assez grave. C'est très variable d'une personne à l'autre.
Alors on dit que la punaise de lit est une grande voyageuse, justement dans un monde où de plus en plus de personnes, de marchandises et de parasites se déplacent. Est-ce qu'il faut craindre l'émergence de nouveaux parasites en France notamment?
C'est déjà fait pour la punaise de lit. Elle a bien...
Non mais d'autres qui ne sont pas encore venus et qui pourraient arriver.
Bah écoutez, oui, avec le réchauffement...
Ça c'est quelque chose qui vous inquiète, vous, en tant que médecin?
Mais écoutez, le réchauffement climatique nous a montré déjà que Aedes albopictus, le moustique tigre, s'est bien installé en France. La punaise de lit s'est bien installée et certainement d'autres parasites vont arriver.
Et elle venait d'où, la punaise de lit, justement, avant d'arriver en France? Elle a parcouru le monde entier?
Oui, elle est partout dans le monde. Ouais. Elle est absolument partout. On la trouve dans les meilleurs hôtels, que ce soit à Paris ou dans les plus petits hôtels, à Bali ou n'importe où dans le monde, c'est pareil.
Alors on parlait de poux au début de cette émission, parlons à présent des poux du pubis, plus connus sous le nom de morpions. À quoi sont-ils dus? Comment les attrape-t-on?
Alors les morpions sont des poux un petit peu particuliers, ils sont tout petits, à peine un millimètre, mais par contre ils sont très trapus, costauds, avec des grosses pattes. Et normalement,
c'est comme ça qu'on les reconnaît.
C'est comme ça qu'on les reconnaît. Et normalement, ils ne vivent qu'au niveau du pubis. Ils s'accrochent au poil du pubis où ils jouent à Tarzan, passant d'un poil à l'autre. C'est là que la femelle pond ses œufs également. C'est des lentes collées au poil. C'est vrai que ça, à un moment donné, ça avait disparu avec l'hygiène, avec le rasage. Les gens se rasaient simplement le pubis. Et il y a eu un article dans un journal qui mettait en garde, attention, morpion, espèce en voie de disparition, donc ne vous rasez plus.
Ça, c'était... Mais moi, j'ai lu un peu le même article concernant l'épilation, comme quoi les morpions, justement, tendaient à disparaître en raison de l'épilation. Est-ce que c'est une réalité?
C'est possible, hein, parce qu'effectivement, on le trouve sur le poil. Alors, il passe facilement aussi, maintenant, du pubis sur la barbe des messieurs. Ne me dites pas comment, et puis sur le reste des poils, sur l'ensemble du corps.
Bah, les poils des aisselles et les cils, j'ai lu également, c'est vrai?
Les poils des aisselles, des cils, et même sur les cheveux maintenant, on peut les trouver, la frange frontale chez les enfants. Les cas sont devenus rares. J'en ai vu, par exemple, le mois dernier, j'ai eu 3 patients qui sont venus, c'est des hommes velus, poitrine velue, et ils avaient plein de morpions sur la poitrine. Donc c'était rare, mais ça revient ça aussi, un petit peu, par un manque d'hygiène. C'est quand même
ça, c'est vraiment un manque d'hygiène pour le coup.
C'est quelque chose qui est vraiment sexuellement transmissible aussi, il faut le dire.
Et responsable d'une maladie, la phtiriase, de quoi s'agit-il? Vous faites la mousse?
C'est juste qu'on est contaminé par ces poux, donc ils nous piquent, ça gratte et c'est tout. C'est comme les poux de tête, mais là c'est le pubis et puis le reste du corps.
Mais concrètement, c'est pas très dangereux, c'est plus gênant, irritant qu'autre chose?
Théoriquement, ça ne transmet pas du tout de maladie. Donc c'est responsable de la phtiriose, hein, c'est-à-dire qu'on est contaminé, c'est tout. Mais ça ne donne pas de maladie grave, il n'y a pas mort d'homme.
Et alors pour le traiter, est-ce que c'est facile? Pour se débarrasser de ces morpions, que faut-il faire?
C'est facile. Honnêtement, aujourd'hui, il y a de très bons produits. Il y a un produit qui a une AMM, c'est un produit insecticide, un spray, mais qui coûte cher. Mais aujourd'hui, on a un traitement qui est formidable. C'est un traitement perros, c'est des comprimés. C'est l'ivermectine. 200 microgrammes par kilo le premier jour. La même chose 10 jours après, le problème est réglé. Mais il faut traiter le sujet et celui qui lui a donné ça, le sujet contact. Parce que c'est jamais tout seul. Il y a toujours quelqu'un avec qui on a attrapé ça.
Bah, c'est un petit peu le problème pour tous les parasites. Il faut traiter l'ensemble. On parlait des poux dans les cheveux, mais ça c'est pareil. Les morpions, c'est toujours pareil.
Absolument, c'est pareil.
Est-ce que finalement, c'est ce qui rend la lutte si difficile? C'est que c'est un traitement de masse.
Vous avez parfaitement raison. Ce qui fait les échecs, c'est qu'on ne traite pas les sujets contacts. C'est pas un traitement de masse, forcément, mais les sujets contacts. Les morpions, c'est sexuellement transmissible, donc c'est le partenaire, essentiellement. Vous voyez, les poux de tête, bon, ça c'est tout le monde, dans une école, on peut avoir 5 à 10 personnes par classe parfois. Si on traite tout le monde, tous les sujets en même temps, c'est réglé.
Oui, mais ça ne se fait jamais malheureusement.
On n'a pas besoin de traiter toute l'école. C'est les camarades proches et puis la famille du patient.
Pour en revenir aux morpions, est-ce qu'il y a quelques conseils de prévention? Comment s'en prémunir? Tout simplement en ayant une bonne hygiène?
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut conseiller?
Oui, quand on change trop de partenaires, c'est sûr qu'à un moment donné, on peut rencontrer
des morpions.
De partenaires sexuels. À un moment donné, on peut rencontrer des morpions. Hein, donc là, il faut faire attention à ça.
Et un autre conseil pour nos auditeurs, non? Changer les draps, laver ses draps.
Théoriquement, les morpions, on ne les trouve que sur les poils. C'est comme les poux de tête. Théoriquement, les poux de tête ne sont que sur la tête.
Quels sont les parasites dont il est le plus difficile de se débarrasser?
Toutes les parasitoses aujourd'hui sont faciles à traiter et en même temps extrêmement compliquées. Et vous l'avez bien souligné, c'est est-ce qu'on a traité la bonne personne correctement et surtout l'entourage, les sujets contacts. Je prends l'exemple de la gale. La gale, c'est quelque chose de, on va dire, facile à diagnostiquer.
Alors, la gale, c'est dû à un petit acarien, c'est ça?
La gale est due à un petit acarien qui rentre dans la peau, qui se nourrit de notre peau, qui pond ses œufs dans la peau, et puis il vit sur nous. Il fait tout son cycle de vie sur nous. Alors, c'est facile à diagnostiquer, on se gratte entre les doigts au niveau des poignets, au niveau des organes génitaux. Mais pour traiter, si on ne traite que le sujet en lui-même, eh bien, on court vers l'échec, parce que les sujets contacts ne sont pas traités, et ici, exceptionnellement, les vêtements également sont contaminés.
On reparlera de la gale dans la deuxième partie de cette émission, mais là, on arrive au terme de la première partie, donc restez avec nous, on se retrouve juste après le Flash Info, priorité santé à suivre.
Priorité santé, Igor Strauss.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons des parasites indésirables. Ils ne sont pas forcément dangereux pour la santé, mais ils nous irritent au plus haut point dans tous les sens du terme. Alors, comment les éviter? Comment s'en débarrasser? Quels sont les traitements existants? Suite de notre entretien avec notre invité, le docteur Areski Isri, chef de service parasitologie mycologie à l'hôpital Avicenne de Bobigny, en banlieue parisienne. Et à la fin de cette émission, nous retrouverons la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport et de l'équipe nationale de judo. Et évidemment, comme tous les jours, nous attendons vos questions, vos réactions au 33 1 84 22 75 75. Et tout de suite, direction le Gabon. Nous sommes en ligne avec le professeur Marielle Bouillou, professeur de parasitologie mycologie, chef du département de parasitologie mycologie de la faculté de médecine de l'Université des sciences de la santé de Libreville. Professeur Bouillou, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Priorité Santé. Au niveau de la recherche, professeur, quels sont les parasites et les maladies parasitaires qui vous intéressent au Gabon ?
Le paludisme.
Évidemment, j'allais dire.
Les maladies tropico-indigènes, notamment les géomalentos, les filarioses, la trypanosomose américaine et les protozoes intestinaux.
Et pourquoi tous ces parasites, ces maladies parasitaires vous intéressent? Tout simplement parce qu'elles sont fréquentes au Gabon?
Oui, elles sont fréquentes, elles sont endémiques au Gabon.
Vous parliez des filarioses, alors on peut peut-être rappeler ce que c'est, la filariose lymphatique, on la connaît sous le nom d'éléphantiasis, c'est ça? Vous pouvez nous en rappeler les principes, et est-ce qu'elle est endémique et vraiment problématique au Gabon?
Non, nous n'avons pas de filariose lymphatique au Gabon. Par contre, nous avons la loaose, la filariose due à l'oa-loa. Alors la loaose est une filariose sanguicole, telle que la filariose lymphatique, mais qui sévit uniquement au niveau du bloc forestier équatorial. Et précisément, donc, au Gabon, le Gabon est endémique, on a eu des prévalences dans certaines zones qui vont jusqu'à 40-50% des populations exposées, notamment en région rurale, et qui se caractérise beaucoup plus par un prurite. Cette maladie revêt un intérêt du fait de sa co-endémicité avec l'onchocercose, qui est une maladie tropicale négligée qui résulte à la sécheresse des rivières et pour lesquelles, justement, la mise en place d'une des stratégies de lutte préconisée, qui est le traitement de masse par l'ivermectine, peut être entravée par la présence de l'oaose, dont le traitement par l'ivermectine peut être à l'origine d'effets secondaires graves, parfois mortels.
Alors, on a les traitements. Est-il néanmoins facile de traiter les patients quand on sait que le territoire est vaste et qu'il faut y avoir accès?
Oui, il est facile de traiter les patients. Je prends l'exemple du département. Du fait des enquêtes qui ont été faites il y a plusieurs années par les responsables, nos prédécesseurs dans le département, notamment le professeur Combilin Marivonne, le professeur Dominique Richard Lenoble. Donc, l'exemple du département qui est aujourd'hui le laboratoire de référence, et nous continuons à recevoir donc des patients qui nous sont adressés par les médecins des zones rurales ou alors des patients de village qui ont été visités par les enquêteurs il y a 30-40 ans et qui continuent d'arriver à Libreville pour se faire d'abord pour un diagnostic et pour un traitement.
Mais
il y a des enquêtes qui sont actuellement menées aussi par le Programme national de lutte depuis à peu près 3 ans. Je pense qu'ils font des enquêtes tous les 2 ans. Et bon, au cours de ces enquêtes, les patients des zones rurales, donc ils n'ont pas accès justement aux diagnostics ou bien aux services de santé qui permettent le diagnostic. Ces populations peuvent donc être traitées.
Mais quand ils ont accès à des centres de santé, est-ce qu'ils viennent se faire dépister ou consulter rapidement? Ou est-ce que certains tardent?
Non, certains tardent. Il faut savoir que ce n'est pas une maladie qu'on peut qualifier de grave, Le prurite et les œdèmes sont les principales manifestations, surtout le prurite.
Alors, le prurite, pour être clair, c'est une boursouflure.
C'est quand on se gratte.
C'est quand on se gratte, c'est ça?
Ouais.
Oui. Pour être précis, merci docteur Isri.
Voilà.
Comment sont perçues les maladies parasitaires au Gabon, docteur Bouillou?
Elles sont, je dirais, pour parler tout simplement, communes. Elles font partie du quotidien. Certes, la plupart des patients...
Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de croyance particulière par rapport à ces maladies?
Pour toutes celles que j'ai citées, non, pas particulièrement.
Est-ce que les...
Oui,
pardon, excusez-moi.
Oui, leur prévalence est très élevée. Il n'y a pas... Elles ne sont pas émergentes, donc... Ce sont des pathologies courantes et très fréquentes. Donc non, il n'y a pas de honte, très peu de stigmatisation aussi.
Bon, bah écoutez, tant mieux, c'est une bonne chose. Est-ce que les parasitoses digestives ou intestinales sont fréquentes au Gabon?
Oui, elles sont fréquentes.
Oui, alors lesquelles par exemple?
L'ascaridiose.
Alors de quoi s'agit-il? Expliquez-nous pour être très concret.
Alors, il s'agit il s'agit de vers, le portage de vers intestinaux.
C'est des vers intestinaux que l'on trouve dans l'eau, dans les aliments, dans...
Oui, qui sont transmis par l'eau, les aliments souillés, par les matières fécales de patients infectés. Voilà. Et donc, ces maladies transmises, donc, qu'on appelle pathologies liées au péril fécal, sont très fréquentes. Très fréquentes en zone rurale pour les vers les plus connus, l'ascaris, l'ankylostome, l'anguillule, un peu plus rare en zone urbaine, dans les grandes villes.
Parce que là, vous utilisez beaucoup de termes savants. Concrètement, quels sont les symptômes? Est-ce que c'est dangereux? Matière fécale, c'est-à-dire qu'il faut conseiller, j'imagine, aux enfants, notamment, de se laver les mains après avoir fait leurs besoins, des choses comme ça?
Voilà, il faut se laver les mains après avoir fait leurs besoins. Donc, ces maladies sont fréquentes chez les individus qui ne se lavent pas fréquemment les mains, dans les zones où il n'y a pas une bonne gestion des selles, où effectivement les gens vont faire leurs besoins de façon anarchique dans la nature.
Bah beaucoup n'ont pas accès aux toilettes, donc ils sont obligés malheureusement de faire dans la nature, comme vous le dites.
Malgré eux, exactement. Et donc, ce sont des facteurs favorisants. De plus, le climat tropical, justement, permet justement le développement et la transmission et accentue la transmission de ces parasites.
Alors, pour faire un petit peu de pédagogie, professeur Bouillou, quels sont les messages qu'il faut faire passer à la population? Des messages de sensibilisation pour éviter, s'il est possible de les éviter, ces parasites, tous ces parasites que vous avez cités?
La première des choses, c'est une bonne hygiène. Une bonne hygiène des mains, des bonnes habitudes dans ce qu'on appelle la défécation, faire attention à ne pas aller faire ses besoins dans ses selles partout. Les médecins doivent pouvoir diagnostiquer et traiter les patients qui sont les principaux réservoirs. Ce sont eux qui maintiennent en fait le parasite et permettent leur dissémination dans la nature et donc de pérenniser la contamination. Ça, c'est pour les patients à l'échelle individuelle. Bien laver les aliments, essayer de boire de l'eau potable lorsqu'on ne peut pas avoir accès à de l'eau potable ou qu'on ne peut pas s'acheter de l'eau minérale. Il faut faire bouillir de l'eau. Bien que ça soit faire bouillir de l'eau, ça soit controversé, mais ça reste toujours efficace. Il faut boire de l'eau bouillie, protéger les aliments, laver les fruits et les légumes.
Eh bien, écoutez, merci infiniment, professeur Marielle Bouillou. Je rappelle que vous êtes professeur de parasitologie mycologie, chef du département de parasitologie mycologie de la faculté de médecine de l'Université des sciences de la santé de Libreville. Bonne journée à vous au Gabon.
Je me gratte.
Vous écoutez Priorité Santé sur RFI avec M en musique. Aujourd'hui, nous parlons de tous les parasites indésirables qui nous gâchent la vie avec le docteur Areski Isri, chef de service parasitologie mycologie à l'hôpital Avicenne à Bobigny en banlieue parisienne. Et évidemment, comme tous les jours, nous attendons vos questions, vos réactions au 33 1 84 22 75 75. Et justement, nous avons une première auditrice. C'est Mariam qui nous appelle de Nema en Mauritanie. Bonjour Mariam.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Quelle est votre question Mariam?
Bon, en fait, moi je souffre d'une infection parasitaire depuis le mois de mars de 2017. J'ai consulté plusieurs médecins, à chaque fois ils me donnent un traitement, mais ensuite le dernier médecin que j'ai consulté m'a fait des analyses sur les selles et ils ont trouvé une présence de kystes d'amibes et de l'octrie commune vaginalis. Mes questions sont les suivantes.
Oui.
Est-ce qu'on peut guérir de cette infection? Est-ce que ça peut affecter la fertilité? Et quelles sont les conséquences pour un sujet qui ne se traite pas?
Eh bien, écoutez, le docteur Areski Isri vous répond tout de suite, Mariam.
Oui, bonjour Mariam. Bon, Trichomonas vaginalis est un protozoaire qui se transmet lors de relations sexuelles. Donc, vous savez déjà comment vous l'avez attrapé. Ou parfois par l'intermédiaire d'objets souillés, mais c'est plutôt exceptionnel. Donc le traitement est facile, hein, c'est un traitement antiparasitaire adapté. Il est sensible aux produits, notamment il est sensible au métronidazole. Et donc si votre médecin vous donne des ovules ou s'il vous donne un traitement par voie générale adapté, ça devrait passer. Voilà pour Trichomonas. Mais il est impératif de traiter le partenaire. Sinon, ça revient. En ce qui concerne les amibes qu'on trouve au niveau de l'intestin, puisque je vois que vous aviez donc des amibes aussi, c'est pareil, c'est à peu près le même traitement, hein, c'est le métronidazole qui devrait normalement régler le problème, mais ça dépend de quelle amibe il s'agit. Est-ce que c'est l'amibe pathogène, Entamoeba histolytica, ou bien une autre amibe? Nous ne traitons que l'amibe pathogène, et celle-ci, on l'attrape comme l'a expliqué le professeur Bougnou tout à l'heure, en mangeant des aliments souillés ou de l'eau souillée par des selles d'un patient déjà atteint d'amibiase. Voilà, donc c'est l'hygiène des mains, l'hygiène alimentaire qui va permettre de l'éviter.
Voilà, pour vraiment rassurer Mariam, Trichomonas vaginalis, donc cette infection sexuellement transmissible, ne peut pas affecter la fertilité.
Quand on prend ça à temps, il n'y a pas de problème habituellement. C'est plus pour le sujet mâle que c'est plus embêtant.
D'accord. Donc
pour la femme, quand elle est prise à temps, on arrive à régler le problème. C'est pas, il n'y a pas de problème de fertilité par la suite.
Bon, eh bien, écoutez, voilà qui va rassurer Mariam. Merci en tout cas, Mariam, de nous avoir appelé. Puis vous, chers auditeurs, vous pouvez continuer à poser toutes vos questions au 33 1 84 22 75 75. Docteur Areski Isri, tout à l'heure avec le professeur Bouillou, on parlait de cette absence de toilettes extrêmement problématique, puisque de nombreux parasites se trouvent dans les déjections. Comment, à part la création de toilettes partout en Afrique, comment faire pour éviter ces parasites?
Oui, je crois que, d'abord je salue le professeur Bouillou, effectivement elle a très bien expliqué les choses, hein. C'est le péril fécal, c'est-à-dire la contamination des aliments et de l'eau par des selles de patients qui éliminent des parasites. Hein, ça peut être les vers, ça peut être les amibes ou d'autres parasites. Donc évidemment, la première des choses à faire, c'est de construire des latrines. Quand on construit des latrines et qu'on fait ce qu'on appelle le tout à l'égout, on arrive à éliminer ces parasitoses. C'est ce qu'on a fait en Europe. Quand on ne peut pas faire des latrines partout, quand on ne peut pas faire le tout à l'égout, il faut effectivement essayer peut-être de désigner des endroits pour les selles et ne pas aller faire un peu partout, surtout pas dans le jardin, surtout pas là où on cultive ses salades, ses légumes, etc. Et puis, il y a l'hygiène des mains, c'est-à-dire qu'on se lave les mains avant de manger, et puis on lave soigneusement tous les légumes que l'on doit manger crus, ou on les fait cuire. Si c'est bien cuit, si c'est bien lavé, si on s'est lavé les mains, on n'attrape pas ces maladies.
Alors, il faut avoir accès à l'eau pour se laver les mains. Beaucoup font leurs besoins à côté des points d'eau, justement, de cours d'eau, de rivières, de marigots. C'est un cercle vicieux, finalement, docteur.
Je crois que les écoles servent aussi à ça. En passant les messages par les écoles, on arrive souvent à sensibiliser à la fois les enfants et les parents. Donc oui, c'est pas évident, c'est pas facile. Tout ça relève de plusieurs actions à mener en même temps, à la fois l'éducation, hein, c'est ce qu'on vient de dire, la réalisation de latrines et puis ces conseils d'hygiène. C'est difficile de faire autrement.
Alors, on a très brièvement abordé le sujet dans la première partie de cette émission. C'est une maladie très répandue dans le monde. Selon l'OMS, 300 millions de personnes sont touchées chaque année. Cette maladie, c'est la gale, qui est provoquée par un parasite, le sarcopte. Alors, invisible à l'œil nu, quels sont les symptômes de la gale?
Alors, lorsqu'on attrape la gale, en général, il y a un petit temps de latence. Un petit, ça peut aller jusqu'à un mois avant d'avoir des symptômes. Et pendant ce temps-là, on est déjà contagieux. On peut être déjà contagieux avant même d'avoir des symptômes. On l'attrape par contact direct, peau contre peau, avec quelqu'un qui a déjà la gale, lors de relations sexuelles, ou bien simplement entre la mère et l'enfant, le soignant, le soigné, etc. Mais on peut l'attraper aussi par l'intermédiaire des habits, des vêtements, puisque ce sont des petits acariens qui vivent dans la peau, mais qui sortent aussi pour s'accoupler sur la peau. Il y en a sur la peau. Il est évident que quand on frotte la peau avec une serviette de toilette, un gant de toilette, avec des vêtements, avec la literie, eh bien, tous ces objets vont être contaminés et deviennent contaminants. On va attraper la gale comme ça. Alors, quand on a la gale, comment est-ce qu'on s'en aperçoit? La première des choses, c'est qu'on se gratte. On se gratte entre les doigts.
On se gratte surtout la nuit, c'est ça?
On se gratte toute la journée, mais peut-être que c'est un peu plus fort la nuit. Entre les doigts, au niveau des poignets, au niveau des organes génitaux, mais on se gratte jusqu'au sang parfois. Et ça peut donner des boutons, entre guillemets, hein, qui peuvent apparaître au niveau justement des doigts, au niveau des poignets, et puis peut-être ensuite se généraliser, et parfois des croûtes. Voilà les symptômes. Et puis, ce qu'il faut noter qui est important, c'est que non seulement on se gratte, mais petit à petit on voit son entourage se gratter. Tout le monde va commencer à se gratter. Les frères, les sœurs, les parents, la collègue, la copine, ça devient contagieux, ça devient une épidémie, petite épidémie locale ou épidémie qui grossit, qui peut toucher toute une collectivité.
Est-ce que les traitements fonctionnent bien?
Il y a beaucoup de traitements, il y a beaucoup de médicaments qui sont efficaces. Le premier d'entre eux, je vais peut-être citer, c'est le benzoate de benzyle, pour ne pas citer le nom commercial. Ensuite, il y a des insecticides comme la permétrine, les sdépalétrines. Et puis, depuis quelques années, on a ajouté un médicament Peros, c'est l'ivermectine. Tous ces traitements sont très efficaces à condition de les appliquer correctement, selon des recommandations qui sont déjà données par le ministère de la Santé et qu'on peut revoir un petit peu régulièrement. Mais surtout, il faut absolument les mesures complémentaires qui sont le traitement de tous les sujets contacts, c'est-à-dire tous les gens avec qui on a eu des contacts physiques.
Parce que c'est une maladie de la promiscuité, finalement.
C'est la promiscuité. C'est aussi une maladie qui se transmet, comme je l'ai dit, par les vêtements, les objets contaminés. Et donc, on traite les sujets contagieux,
quoi.
Et on traite tout l'environnement. C'est-à-dire qu'on décontamine les vêtements, les fauteuils, le matelas, etc.
Alors, on dit que les démangeaisons peuvent persister alors que deux semaines après la fin du traitement, alors que le traitement a bien fonctionné. Donc, il faut être, faut ne pas croire que le traitement n'a pas fonctionné, c'est ça?
Voilà. Alors, quand on traite, on donne n'importe quel produit insecticide.
Ah, il faut couper votre téléphone, docteur, enfin, vous avez des messages.
Excusez-moi. Voilà. Et donc, c'est vrai que quand on a traité, on tue l'acarien qui est responsable de l'allergie. Mais en fait, ce n'est pas l'acarien tout seul qui est responsable. C'est plus sa salive et ses déjections qui contiennent des protéines. Et donc, le fait de tuer l'acarien n'élimine pas forcément tout de suite toutes les déjections et les protéines qui sont dans la peau. Donc, on peut continuer à se gratter encore pendant 2-3 jours, mais rarement plus. Rarement plus. Après, avec l'élimination de la couche cornée naturelle de la peau, ça s'en va.
Alors, parasites, acariens, nous sommes condamnés à vivre avec eux. Du coup, condamnés à vivre avec des parasitoses et des maladies parasitaires?
Mais ça fait partie de la biodiversité,
oui, si je veux dire.
Donc effectivement, on en aura toujours, il faut pas rêver, on ne peut pas éradiquer ni les poux, ni les sarcoptes, ni les punaises. Ce sera jamais fait.
Ah ouais, non,
on
ça,
pourra
évidemment.
Contrôler, on pourra contrôler.
Mais alors, nous vivons à côté d'animaux domestiques ou d'élevage qui eux aussi sont porteurs de parasites, et ça par contre on pourrait s'en prémunir. Quels sont ceux qui se transmettent à l'homme? Je pense aux animaux de compagnie, prenons les chiens par exemple.
Alors les chiens...
Sans parler de leishmaniose ou de choses dans le genre. Mais...
D'accord, on peut effectivement la leishmaniose, on peut l'attraper pas au contact du chien, mais
si
le chien en est le réservoir. On est le réservoir, donc il y a... Alors c'est vrai que les chiens, ils ont souvent des tiques. Les tiques, on dit une tique, hein, ce sont des acariens qui peuvent passer sur l'homme et transmettre des maladies graves, comme la maladie de Lyme, par exemple, ou d'autres maladies virales ou autres. Les chiens ont aussi des vers, hein, qui peuvent parasiter leur intestin, et parfois on peut se contaminer en avalant les œufs de ces vers, et on peut attraper la toxocarose, et qui est un ver qui s'est un peu perdu chez nous. Nous sommes une impasse parasitaire pour lui, donc il est perdu, mais en tout cas il nous rend malade, et c'est désagréable. Et bien d'autres maladies encore.
Faites dormir vos animaux de compagnie dehors, déjà, ça sera une bonne chose. Allez, on continue cette émission.
Priorité santé sur RFI.
Et priorité santé, suite et fin, et nous retrouvons le docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport et de l'équipe nationale de judo, pour sa chronique sport hebdomadaire. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Igor.
Alors, proposition aujourd'hui, les anti-inflammatoires, avaler un anti-inflammatoire juste avant de faire du sport dans l'espoir d'atténuer la douleur n'est pas si rare dans la population sportive. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée, Jean-Marc?
Bah absolument Igor, ce n'est pas une bonne idée. En fait, il faut savoir, les anti-inflammatoires sont trop largement utilisés. Alors, dans la population sportive, on sait que c'est à peu près 2 à 4 fois plus consommés que dans la population générale. Alors, tout cela parce que d'abord, il faut savoir que des anti-inflammatoires qu'on peut obtenir sans ordonnance, et puis ils ne figurent pas sur la liste des produits interdits à un dopant, vous savez, de l'Agence mondiale antidopage. Et donc, il n'y a rien qui limite leur consommation par les sportifs. Alors, évidemment, les motivations, c'est surtout les phénomènes antidouleurs pour lutter, comme vous l'avez dit, contre la douleur. Alors, c'est quoi les anti-inflammatoires? C'est l'ibuprofène, l'étoprofène ou l'aspirine qu'on connaît bien. Hein.
Est-ce que ces prises médicamenteuses sont toujours justifiées, Jean-Marc? Est-ce qu'il y a des effets secondaires?
Alors, malheureusement, non. Généralement, ils sont utilisés hors indication médicale, et puis il y a de nombreux effets secondaires. Alors, sur le plan digestif, ce qui est connu, ce sont les effets, par exemple, d'ulcères qui sont possibles, l'augmentation aussi des saignements digestifs. Alors, on sait que dans certains sports de contact, hein, par exemple, on augmente le risque également d'hématomes. Et puis, vous savez que les anti-inflammatoires inhibent la réponse inflammatoire, en fait, par définition, et cette réponse inflammatoire, elle est importante dans la cicatrisation. Donc quand on fait certaines lésions, par exemple des lésions musculaires, on a besoin de ce phénomène finalement inflammatoire du début de cicatrisation pour avoir un bon résultat. Malheureusement, ça nuit à ça. Et puis, quand on fait du sport, on est souvent déshydraté aussi. Et ça a une action sur le rein. Et l'action des anti-inflammatoires peut aggraver également une atteinte rénale. Et puis enfin, ce qui a été démontré, c'est que pris sur une longue période, eh bien, on augmente le risque d'accidents cardiovasculaires, par exemple les accidents coronariens ou les accidents vasculaires cérébraux.
Tout cela est assez inquiétant, docteur Sen. Alors, quel conseil donner aux auditeurs?
Bon, il y a quelques points à retenir hein, pour avoir une bonne attitude vis-à-vis ces médicaments. Première chose, il faut retenir que c'est pas parce que le médicament est en vente libre et n'apparaît pas sur la liste des produits interdits hein, qu'il n'est pas dangereux pour la santé. Ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est quand on s'est blessé, ce qui est important pour pouvoir revenir et être performant, c'est d'abord avoir un diagnostic précis, avoir un bon traitement et une bonne rééducation, et puis respecter absolument les délais de la cicatrisation et de la reprise sportive. Et enfin, si finalement il faut prendre quand même des anti-inflammatoires, ben il faut les prendre pendant une période courte, hein, pour éviter l'accumulation de tous ces effets de ce contexte. Normalement, voilà, en suivant tous ces conseils et en évitant l'excès d'automédication, normalement, nos auditeurs doivent pouvoir pratiquer leur sport sans trop de désagréments.
Eh bien, écoutez, merci infiniment. C'était la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen. On vous retrouve la semaine prochaine, Jean-Marc.
Absolument, Igor.
Allez, bonne semaine à vous. À la semaine prochaine. À bientôt, Jean-Marc. Docteur Areski Isri, merci infiniment. Vous reviendrez dans cette émission.
Merci à vous.
Hein, on aurait pu continuer le débat. Il y avait encore de nombreuses parasitoses à aborder, mais malheureusement, on manque un peu de temps. En tout cas, je rappelle que vous êtes chef de service parasitologie mycologie à l'hôpital Avicenne à Bobigny, donc en banlieue parisienne. C'est la fin de cette émission, vous l'avez compris, chers auditeurs, une émission qui a été réalisée par Didier Bleu et préparée par Assetous Samaquet et Ophélie Lassène. Demain, nous parlerons des maladies cardiovasculaires. Évidemment, nous attendons vos questions, vos réactions au 33 1 84 22 75 75. Bonne journée à tous et à demain.
Merci.
C'était Priorité Santé avec Sounois Assurance qui vous souhaite une bonne et heureuse année pleine d'assurance. Sounois Assurance, notre métier, l'assurance.